Depuis les années 70, la fréquence de leur naissance a doublé dans les pays occidentaux. Retard de l'âge du premier enfant, recours de plus en plus courant à l'assistance médicale, à la procréation, les naissances multiples, au premier rang desquelles la gémellité, sont beaucoup plus courantes aujourd'hui qu'hier. Une recrudescence qui fait le bonheur des scientifiques, puisque, comme nous l'avons évoqué ici même à de nombreuses reprises au cours de l'année, les jumeaux et les jumelles nous permettent d'apprendre énormément de choses dans le domaine de la génétique, de l'expression des gènes, de la psychologie cognitive et surtout de l'épigénétique. Jumeaux, une histoire double, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions, il nous fallait bien entendu deux invités. Bonjour Fabrice Bach.
Bonjour.
Psychologue cognitiviste, vous êtes spécialiste du développement des jumeaux. Nous avons également le plaisir d'accueillir Bruno Reversade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche en génétique humaine à l'Institut de biologie médicale IMB à Star à Singapour. Vous pouvez suivre comme chaque jour bien sûr l'émission en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors quand on parle des jumeaux, eh bien en fait on parle de situations très très différentes. Ce n'est que depuis le début du XXe siècle qu'on a identifié les différentes formes de gémellité. Faisons donc un peu de définition pour commencer. Quelles sont ces différentes formes de gémellité, Bruno Reversade? On parle de jumeaux monozygotes, de jumeaux dizygotes, ce sont deux choses très différentes, de facto.
Oui, donc il y a deux types de jumeaux, les jumeaux identiques, qu'on appelle des jumeaux monozygotiques, parce qu'ils proviennent du même zygote, c'est-à-dire l'œuf, la cellule de l'embryon a une seule cellule, et des jumeaux dizygotiques, qui sont eux dérivés de deux événements de fertilisation. Donc deux origines très différentes.
Il y a dans un cas des jumeaux qui sont donc identiques, dans l'autre des jumeaux qui sont très dissemblables. Comment ça se passe? Enfin, quels sont les plus fréquents? Est-ce qu'on a plus souvent des vrais, on appelle ça aussi des vrais ou des faux jumeaux? Est-ce que c'est plus fréquent de trouver des jumeaux monozygotes, plus fréquent de trouver des jumeaux dizygotes?
Donc l'incidence des jumeaux dizygotiques, c'est à peu près une naissance sur 100. En revanche, celle des jumeaux monozygotes est une naissance sur 250 ou une naissance sur 300. Donc trois fois plus rare.
Comment ça survient, pour commencer par les jumeaux dizygotes ou dizygotiques, puisqu'ils sont ceux qui vont nous intéresser le moins au cours de cette heure. Comment ça survient des jumeaux dizygotiques? C'est du hasard? Il y a une prédisposition génétique?
C'est un phénomène biologique assez connu, qui est d'ailleurs la norme dans d'autres espèces mammifères. Quand on pense aux chats, aux chiens, ils ont des grosses portées. Ce sont tous des jumeaux dizygotiques. Donc, et c'est souvent corrélé aussi au nombre de glandes mammaires. Donc c'est un phénomène de reproduction qui est sollicité selon les espèces. Et après, quel était votre
question? Voilà. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que finalement, dans un cadre de jumeaux dizygotiques, on obtient un frère et une sœur qui ont partagé la grossesse, voilà. Mais ce sont deux individus génétiquement distincts comme n'importe quel frère ou sœur.
Sauf qu'ils sont nés en même temps et qu'ils ont été développés en même temps. Et en fait, c'est une question de fertilité de la mère. Pendant un cycle menstruel, la mère va relâcher deux ovules au lieu de un. Et comme le sperme n'est pas limitant, on a deux événements de fertilisation.
Et ces événements-là, est-ce que, justement, la question était la suivante, est-ce que il y a une prédisposition génétique? Est-ce que c'est le pur fruit du hasard? Est-ce que ça se retrouve plus fréquemment chez certaines femmes que chez d'autres, à différents âges peut-être?
Je pense pas que ce soit le fruit du hasard complètement, puisque le nombre d'embryons par portée varie selon les espèces. En général, on a un enfant, voire deux. Et il existe des facteurs, l'âge, le BMI, Body Mass Index.
L'indice de masse corporelle. Il faut préciser, voilà, à nos auditeurs que vous vivez à Singapour depuis de très nombreuses années. Donc vous m'avez dit avant l'émission, il peut me manquer quelques mots en français, voilà, mais j'assurerai la traduction.
Et il existe quelques gènes qui ont été découverts dans différentes espèces qui prédisposent à la gémellité non identique. Et on a d'ailleurs, avec des collaborateurs en Hollande l'année dernière, découvert les premiers gènes qui sont responsables de la jumelité non identique chez l'homme.
D'accord, ces gènes, donc vous les avez découverts, ce sont des gènes récessifs, ils se situent où, ils ont quelle fréquence, quel type de répartition de la population?
Ce sont des gènes finalement qui sont tout à fait intuitifs, puisque ce sont des allèles qui sont dans une hormone FSH qui contrôle le taux de release des...
De relâchement.
Des ovules. Et donc, c'était tout à fait attendu, mais on l'a maintenant démontré.
Et dans de rares cas, d'ailleurs, les jumeaux dizygotes peuvent même avoir deux pères différents. Écoutez cette archive, c'est une archive du journal télé de 1992.
En médecine, ce cas s'appelle la superfécondation. Au cours d'un même cycle, une femme libère deux ovules à quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours d'intervalle. Si elle a des relations sexuelles avec deux partenaires différents, chacun d'entre eux peut féconder l'un des deux ovules.
Cette éventualité tout à fait exceptionnelle, mais a déjà existé, puisque des cas tout à fait indiscutables ont été rapportés. Ceci dit, je voudrais quand même rassurer les pères de jumeaux et je ne voudrais pas qu'ils s'inquiètent trop car c'est vraiment l'exception.
Voilà, l'exception, mais ça arrive de temps en temps, des jumeaux dizygotes avec deux pères différents.
Oui, c'est vrai.
Fabrice Bach.
C'est un peu troublant quand
même.
C'est un peu troublant. Les pères peuvent s'inquiéter. Alors, effectivement, ce qu'on retrouve au niveau, on a des familles, en fait, où les naissances gemellaires vont être plus récurrentes, plus fréquentes. Donc ça évoque effectivement le principe des gènes. Effectivement, la globalité sont des jumeaux dizygotes qui représentent deux tiers des naissances gemellaires, un tiers de monozygotes. Sachant qu'on va retrouver aussi ces éléments au niveau de ce qu'on a appelé les problématiques gemellaires lorsque les enfants vont grandir. Les problématiques les plus complexes sont effectivement les jumeaux monozygotes, donc qui se ressemblent totalement. Un peu moins complexes, les jumeaux dizygotes de même sexe. Et plus simple, les jumeaux dizygotes de sexe différent.
Alors on va parler en fait des jumeaux qui nous intéressent aujourd'hui à beaucoup d'égards, autant sur le plan génétique que sur le plan du développement comportemental et cognitif. Ce sont les jumeaux monozygotes, donc on dit que c'est un tiers. Une chose, les jumeaux dizygotes, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les jumeaux dizygotes sont des grossesses qu'on appelle bicoriales et biamniotiques, c'est-à-dire qu'il y a deux sacs et deux placenta. Comment ça se passe chez les jumeaux monozygotes? Est-ce que comment se passent les grossesses? Parce qu'il y a différents types de grossesses aussi, Bruno Reversade.
Donc je pense qu'on peut distinguer trois types de jumeaux monozygotes. Et cela dépend du moment à partir duquel l'embryon ou le fœtus va se diviser. Donc on a les jumeaux monozygotiques dichorioniques. C'est-à-dire que c'est une division de l'embryon qui fait qu'on va avoir deux blastocystes. Et donc, ils ont le même génome, mais ils ont chacun leur placenta. Et donc, en ça, ils ressemblent beaucoup en fait aux jumeaux dizygotiques. Et on peut se tromper à la naissance. Pas mal d'obstétriciens vont dire non, ce sont des jumeaux dizygotiques parce qu'il y a deux placentas. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc ça, c'est le premier type de jumeaux monozygotiques. Le deuxième, qui est le plus commun, ce sont des jumeaux monozygotiques monochorioniques, c'est-à-dire qu'ils ont le même placenta. Et il représente à peu près deux tiers de tous les jumeaux monozygotiques. Et c'est un phénomène dont on ne sait pas exactement comment il se passe, où on a un seul blastocyste et deux masses cellulaires internes qui, elles, chacune d'entre elles, vont donner naissance à un embryon. Donc à la naissance, il y a un seul placenta.
Et ça c'est parce que la division se passe un peu plus tard, c'est ça?
Un peu plus tard, oui. Et finalement, il y a les jumeaux monozygotiques, monochorioniques et monoamniotiques, donc qui partagent tout. Le génome, le chorion, l'amnion, et qui risquent d'ailleurs d'être des jumeaux siamois, puisqu'ils sont si près l'un de l'autre. Et ça, ce sont les plus rares, c'est 1% de tous les jumeaux monozygotiques. Et c'est un phénomène de duplication beaucoup plus tardif.
Donc, est-ce qu'on sait aujourd'hui concrètement pourquoi, à un moment donné, le blastocyste va se séparer en deux et va créer deux embryons distincts? Est-ce qu'on connaît les mécanismes qui sont à l'origine de cette division qui donne naissance aux jumeaux? Vos travaux ont porté là-dessus et vous avez quelques éléments de réponse génétique, en tout cas, Bruno Reversade.
Donc nous, on s'est posé la question de savoir si c'était possible qu'il y ait en fait des gènes qui prédisposent à la gémellité. Le raisonnement qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, il existe des espèces de mammifères qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des jumeaux identiques.
Comme par exemple
le tatou, l'armadillo, qui est un mammifère, comme nous, qui n'a pas d'autre choix que d'avoir des quadruplés à chaque fois qu'il se reproduit. Donc, il démontre que finalement, il y a sûrement une pathway,
un chemin
génétique qui prédispose à la gémellité identique chez les mammifères. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, est-ce qu'il existe des familles humaines dont l'incidence de jumeaux identiques est bien supérieure à la normale? Et on a donc recruté quelques familles comme ça dans le monde, et on a fait des études génétiques pour trouver quels sont les locus, quelles sont les parties du chromosome, des chromosomes du génome qui sont partagés par tous ces jumeaux. Et donc on a trouvé une région qui, a priori, contient un gène responsable de la gémilité chez l'humain.
Et ce gène, de la même façon, il est sur quel chromosome, sur quel allèle? Est-ce qu'il est il est évidemment récessif, on l'imagine, mais
Il est plutôt dominant.
Il est plutôt dominant,
ouais,
d'accord.
Avec une pénétrance variable, c'est-à-dire que tous les embryons qui ont cet allèle, ce gène, ne se développeront pas nécessairement en jumeaux. Et il est sur le chromosome 4 et il encode en fait une toute petite hormone qui serait sécrétée par l'embryon, par le blastocyste, au cours du développement.
Et qui conduirait donc du coup à cette division en deux exemplaires.
Donc on n'a pas publié encore. donc cette hormone serait sécrétée par les cellules de la masse cellulaire interne du blastocyste avant l'implantation et serait responsable du développement ou de la... Du surdéveloppement de la masse cellulaire interne de telle manière à ce qu'il y en ait deux qui se forment et ce qui conduirait à la formation de jumeaux plus tard.
Vous avez travaillé sur des familles où l'incidence est très très élevée. On parle de 17 paires de jumeaux identiques sur 5 générations. Est-ce que vos études conduisent à penser qu'aujourd'hui, dans ces familles, et on sait de tout temps qu'il y a des familles à jumeaux et des familles sans jumeaux, est-ce que ça veut dire que toutes les grossesses gemellaires monozygotes sont forcément de composantes génétiques?
Non, pas du tout. Non.
Oui, Francis Bach, Fabrice Bach, pardon.
Je pense qu'après, il y a effectivement énormément de facteurs qui peuvent interférer. Bon, j'interviens plus en tant que psychologue. C'est vrai qu'il y a une population dont on a fréquemment parlé, les Yoruba, donc en Afrique, qui a eu un accroissement au niveau de la population gemellaire. Chez eux, la gemellité est la norme, en fait. C'est l'enfant unique qui n'est pas forcément normal. Il avait, dans ce que j'avais lu, effectivement, été fait écho au niveau de la nourriture, de ce qu'il pouvait ingérer, qui pouvait accentuer cette naissance gemellaire. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'âge aussi, au moment où la mère va attendre les enfants. Enfin, toujours est-il que ce qui est intéressant, mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'effectivement, au niveau de la gemellité, la science s'est beaucoup attachée pour chercher à identifier la part de la nature et de la culture au niveau du développement de l'être humain. Et les travaux de l'épigénétique aujourd'hui vont dans le sens pour réfléchir et analyser ces processus. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir considérer ces enfants comme étant des enfants particuliers, dans le sens où ils ont des besoins spécifiques dans leur développement, qui sont différents des autres enfants.
Et on va l'évoquer tout à l'heure. On va terminer un peu ce tour d'horizon autour de la naissance et de la conception. Je le disais au tout début de cette émission, il y a une recrudescence des cas de gemellité depuis les années 70 avec un quasi doublement. Est-ce que on connaît les raisons de cette augmentation en proportion importante des cas de gemellité, principalement dans les pays occidentaux? Décidément, j'ai mal avec les prénoms aujourd'hui, Bruno Reversad.
Moi, je pense quand il s'agit des traitements hormonaux pour permettre aux femmes d'avoir des surfécondations, des survulations, voilà, donc c'est normal, on va avoir dans un cycle plusieurs œufs, et donc quand ils vont être préparés pour une fécondation in vitro, jusqu'à pas longtemps, on en réimplantait plusieurs. Et donc, c'est sûr qu'on avait un risque d'avoir des jumeaux. Maintenant, on fait de plus en plus attention. Je crois que la loi en France ou même en Europe limite le nombre d'implantations. Donc ça peut expliquer le nombre de jumeaux non identiques. En revanche, la recrudescence de jumeaux identiques est plus difficile à expliquer d'un point de vue embryologique. Et peut-être que le fait que nous manipulons l'embryon par phénomène de compensation, de réaction, induirait peut-être la formation de jumeaux identiques.
Vous voulez dire dans les fécondations in vitro?
Oui, ou dans des ICSI, quand on introduit le sperme dans le cytoplasme pour induire une fertilisation, ou quand on va dégrader la membrane qui est autour du blastocyste, on peut en fait amoindrir son intégrité, donc peut-être induire des formations de jumeaux. Mais ça n'a jamais été observé, vraiment.
Fabrice Bach, sur cette recrudescence, vous avez d'autres explications. Les pics de gemellité sont entre 30 et 39 ans, particulièrement.
Ah oui, tout à fait. Mais bon, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, les PMA, procréation médicalement assistée, ont fait exploser le nombre de naissances gemellaires. Actuellement, on tourne, je crois, de mémoire, un peu plus de 13 000 naissances par an. C'est quand même du monde. Et ensuite, effectivement, comment les familles vont aussi être préparées, accompagnées quant à l'arrivée de ces enfants. puisque dans les PMA, on les prépare effectivement à cela. Dans les familles de jumeaux, effectivement, par hérédité, ils peuvent s'en douter un petit peu, quoique c'est toujours une surprise. Toujours une surprise, avec différents stades qui vont être passés. Quand la maman l'apprend, elle se sent tout de suite un peu extraordinaire, super maman. Le papa un petit peu moins. Sur le coup, il imagine tout de suite qu'il va falloir changer la Clio pour un kangou, qu'il va falloir changer l'appartement. Ce sont aussi des grossesses qui sont extrêmement surveillées, des enfants qui sont surattendus, ce qui va impacter ensuite dans leur développement un certain nombre de choses.
Des recherches récentes qui ont montré également que les grossesses gémellaires seraient en fait beaucoup plus fréquentes que l'on ne pensait, avec jusqu'à une grossesse sur 8, mais que la plupart des cas, l'un des deux embryons est très vite expulsé ou absorbé par l'autre à des stades très précoces. Vous avez des précisions sur ces études, Bruno Versan?
C'est vrai qu'il y a beaucoup il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a le taux de jumeaux est beaucoup plus important que ce qu'on voit à la naissance. Est-ce que c'est véritablement le cas? C'est assez hypothétique. Mais c'est vrai que quand on voit un embryon humain qui se développe avant l'implantation, il subit plusieurs cycles de où il se dégonfle et se regonfle. Et pendant ce phénomène, la masse cellulaire interne peut faire un contact avec de l'autre côté du blastocyste et donc laisser une deuxième population de masse cellulaire interne. Et dû à l'architecture de l'embryon, cette deuxième masse cellulaire interne peut revenir et se coalescer avec la première. Donc au moment donné, on a deux jumeaux, mais avant que le hatching, avant que le blastocyste sorte de la zone apodoucella, il peut en fait se reformer et en refaire un. Donc il y a sûrement beaucoup plus de jumeaux,
Oui, Fabrice Bach, sur cette...
Oui, c'est effectivement des idées. Le professeur Ponce, qui était... président de l'association de la fédération du comité scientifique, la fédération Jumeaux et Plus, le pensait il y a déjà de nombreuses années. Maintenant, effectivement, on n'a pas de preuves, mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait laisser penser que les grossesses multiples sont plus courantes qu'on pense, mais un des fœtus disparaît en fait in utero.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h18, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des jumeaux et principalement des jumeaux identiques, des jumeaux monozygotes. Tout au long de cette heure, nous en parlons avec Fabrice Bach, qui est psychologue cognitiviste, et Bruno Reversad, qui est directeur de recherche en génétique humaine. Alors je le disais en introduction, ces jumeaux ou ces jumelles sont littéralement kidnappés par les chercheurs. Ils sont de plus en plus nombreux et ils intéressent de plus en plus les chercheurs depuis un certain nombre d'années. Selon les chiffres qui ont un peu moins de 5 ans, 1,5 million de jumeaux et de membres de leur famille sont aujourd'hui inscrits dans des études scientifiques dans 28 pays différents sur les 5 continents. Pourquoi est-ce que les jumeaux passionnent autant les chercheurs, Fabrice Bach?
Déjà, les jumeaux ont toujours fasciné. C'est intéressant, quand on regarde toutes les cultures et toutes les religions, il y a un mythe gemellaire, systématiquement. Avec toujours cette dualité, des jumeaux qui vont être ou loués, glorifiés ou détestés. D'ailleurs, fascinant, toujours en Afrique, à 150-200 km d'écart, on pouvait trouver, il y a des années, une tribu où la gémellité était louée. Les mères de jumeaux vont être très contentes de l'entendre, étaient très heureuses de l'entendre. C'est-à-dire que lorsque la mère attendait des jumeaux, elle ne faisait plus rien dans le village. C'était une bénédiction pour le village et tout le village était à sa disposition pendant des années. C'est pas le cas chez nous. Non. Heureusement. Et 200 km plus loin, lorsqu'un des jumeaux naissait, un des jumeaux était tué à la naissance, puisqu'il apportait le malheur dans le village. Et on faisait une statue du jumeau qui avait été sacrifié, que l'autre jumeau devait honorer toute sa vie. Vous voyez, cette représentation est quand même très particulière. On trouve des jumeaux de partout, dans la littérature, les fameux Tweedledee et Tweedledum de Lewis Carroll, encore plus connu Tintin, et Dupont et Dupont. Mais ce qui est toujours fascinant, c'est la nécessité de les distinguer. Même chez Hergé, Dupont et Dupont, vous avez Dupont avec un T et Dupont avec un D, et l'un a les moustaches qui montent, l'autre qui descendent. Cette nécessité vitale de dissocier ses enfants, de par la crainte de l'unique, d'être confronté à une image identique, au double. Et donc les chercheurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé les jumeaux, au départ simplement par rapport à des études génétiques sur le plan médical, pour étudier l'impact de la nature et de la culture, ce que j'évoquais tout à l'heure. Les premières études remontent à Galton, qui était cousin de Darwin.
Nature et nurture, qui n'est pas tout à fait culture, en fait, qui est plus l'idée, l'acquis presque, en quelque sorte.
Et la particularité, ces études ont été quand même fortement remises en cause, puis on s'est rendu compte que Galton avait fortement faussé ses travaux, se créant des populations de jumeaux qui n'existaient pas. Mais pendant longtemps, effectivement, ça a été un questionnement. Comment pourrait-on mesurer ce qui est de la part du génétique et de l'environnement? Donc il y a encore énormément de travaux qui sont dans ce sens. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi beaucoup au développement de ces enfants en eux-mêmes. Pendant des années, on ramenait le développement de ces enfants à celui de l'enfant unique. Et on constatait des choses un petit peu surprenantes. En l'occurrence, les Américains avaient étudié que les jumeaux avaient un QI moyen inférieur par rapport à la moyenne standard de la population. Et on sait aujourd'hui que c'est faux.
C'est faux, c'est affirmé.
Bien sûr, de par le fait que les jumeaux ont une étape de développement supplémentaire que n'a pas l'enfant unique. Donc on comparait deux choses qui n'étaient pas comparables.
Et on va reparler tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission, justement du développement psychocognitif des jumeaux et des progrès que la science a apporté justement à cette compréhension de leur développement. Je me retourne vers vous, Bruno Reversad. Qu'est-ce qui intéresse le généticien? Pourquoi est-ce que vous vous êtes consacré, vous, à un moment donné, à la recherche de ce gène de la géménité?
Pour plusieurs raisons, parce que c'est un phénomène qui est, somme toute, extraordinaire. C'est une forme de clonage reproductif naturel. Donc à partir d'un embryon, on en fait deux. Il y a une différence par rapport au clonage reproductif tel qu'on l'entend dans les médias. C'est une sorte de clonage, on va dire, horizontal, c'est-à-dire que, ou plutôt vertical, on n'a pas de savoir a priori de la personne dont on va cloner, donc on va avoir une photocopie. Alors que le clonage, comme l'entend avec par somal external nuclear transfer, est un clonage vertical dont on a connaissance a priori de la personne dont on va cloner. Donc la jumeau identique, c'est vraiment une forme extraordinaire de développement qui permet à partir d'un seul embryon d'en avoir deux. Et c'est assez contre-intuitif parce que finalement on dirait on commence avec un embryon, on en a deux demi, on devrait avoir deux demi bébés à la fin. Mais chaque moitié sait qu'il lui manque une moitié, donc il y a une sorte d'autorégulation. Et à partir de chaque moitié, on aura deux bébés entiers. Donc ça répond aussi à la médecine régénérative. Comment à partir d'une moitié, on fait toujours un entier?
Alors il y a différents domaines de recherche, on va en évoquer certains, de la génétique et la psychologie, en passant par des essais cliniques. Même les laboratoires pharmaceutiques sont très intéressés par les jumeaux pour voir la différence de réaction à certains composés. Et justement, l'une de ces études, alors pas pharmaceutique en l'occurrence, se déroule en Grande-Bretagne. Elle dure depuis maintenant plus de 25 ans. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous avez pu joindre la responsable de cette étude qui s'appelle Twins UK.
Oui, et cette étude elle est assez unique en son genre puisqu'elle repose depuis 25 ans. Comme vous le disiez, sur une très vaste cohorte de jumeaux. Au départ, elle avait pour but d'étudier les maladies comme l'ostéoporose, mais au fil des années, elle s'est étendue à d'autres champs de recherche comme les maladies cardiovasculaires ou encore le vieillissement. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux scientifiques de ce programme et pourquoi les jumeaux peuvent apporter des précieux renseignements dans les domaines de recherche évoqués? J'ai posé toutes ces questions au docteur Frances Williams, qui mène pour Twins UK des travaux de recherche en rhumatologie et en épidémiologie génétique.
Ce projet a démarré il y a 25 ans, en 1992, et il rassemble un grand nombre de jumeaux venus de tout le Royaume-Uni. Nous avons collecté des données sur presque 13 000 jumeaux, aussi bien des vrais jumeaux que des faux jumeaux.
There are healthy volunteers who tell us about the conditions that they have.
Ce sont des volontaires sains qui nous expliquent leurs conditions de vie et les problèmes de santé qu'ils rencontrent grâce aux questionnaires réguliers que nous leur envoyons. On s'arrange aussi pour que les jumeaux viennent nous voir au département de recherche à Londres. Ils viennent avec leurs co-jumeaux et passent une série de tests spécifiques à chaque étude. Donc, quand nous les voyons, nous collectons toujours des informations de base, comme leur taille, leur poids ou leur pression artérielle, mais on regarde aussi leur dossier médical. Et ensuite, nous faisons des observations en fonction des nombreux projets de recherche liés aux jumeaux. On travaille beaucoup sur l'obésité, le diabète, et dans mon champ de recherche, la rhumatologie. On collecte des informations sur les articulations, sur la colonne vertébrale, sur les douleurs dorsales et sur les autres types de douleurs liées à la rhumatologie. La fourchette d'âge est très large. Les jumeaux ont entre 18 et 88 ans et la moyenne d'âge est de 55 ans.
Vous m'avez dit que l'étude a commencé il y a 25 ans. Est-ce que le fait que l'étude dure longtemps est un facteur très important?
Oui, c'est important qu'elle dure longtemps et qu'elle porte sur un grand nombre de personnes. Étant donné que nous collectons des informations sur cette longue durée, nous pouvons voir comment les personnes changent avec l'âge et c'est un grand avantage. On peut par exemple observer l'évolution de leur poids avec l'âge et dans mon champ de recherche, on peut voir comment leur colonne vertébrale évolue avec l'âge.
In the Twins UK and in other collections around the world,
Avec Twins UK et d'autres études faites dans le monde, on essaie d'identifier les gènes qui sont responsables de douleurs chroniques. Les jumeaux permettent des expériences uniques. Puisqu'ils sont aussi semblables et qu'ils ont un environnement identique quand ils sont élevés ensemble, nous pouvons comparer les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux ont un ADN identique à 100%, tandis que les faux jumeaux sont plus comme des frères et sœurs normaux, donc ils partagent 50% de leur ADN. Du coup, en se servant de ce paramètre, on peut comparer ces deux profils pour trouver les facteurs génétiques et épigénétiques qui sont à l'œuvre. On fait beaucoup de tests différents en fonction des questions que l'on se pose. 1000 jumeaux ont donc passé des IRM. On a aussi fait des scanners pour déterminer leur densité osseuse et comprendre comment cette densité évolue avec l'âge.
We look at x-rays of their joints. They complete questionnaires telling us about their,
on observe aussi leurs articulations au rayon X. Ils remplissent des questionnaires où ils nous parlent de leurs douleurs, de leur sommeil, de leurs humeurs, pour que l'on puisse diagnostiquer la dépression, le syndrome de l'intestin irritable, la sécheresse oculaire ou encore la fibromyalgie. Cette étude nous permet d'avoir une quantité d'informations sur de nombreuses personnes plutôt que d'aller identifier des patients en clinique.
Et quelles sont les principales découvertes que vous avez faites, du coup, grâce à ces études de jumeaux ?
In addition to showing that the fibromyalgia is heritable, we have.
En plus de démontrer, par exemple, que la fibromyalgie est héréditaire, nos études ont montré comment la fibromyalgie est reliée à toutes ces maladies dont j'ai parlé. Et nous avons pu montrer que si ces maladies touchent certains groupes de gens, c'est parce qu'ils ont un patrimoine génétique commun.
We've also recently published on a paper showing that.
Nous venons aussi de publier un article qui montre que les douleurs diffuses sont génétiquement liées aux maladies cardiovasculaires, ce qui est très surprenant. Personne du reste ne le soupçonnait. La dépression et les maladies cardiovasculaires sont génétiquement liées aux douleurs diffuses.
We have published recently a project looking at the epigenetic factors.
Enfin, nous venons de publier une étude portant sur les facteurs épigénétiques de la fibromyalgie. Alors que nous ne pouvons pas identifier une zone unique de l'épigénome impliquée dans la fibromyalgie, nous avons pu voir que la voie neuronale semble être altérée dans la fibromyalgie. C'est donc éloigné des muscles et des os qui font souffrir les gens, et peut-être que c'est du côté de la moelle épinière ou du cerveau qu'il faut aller chercher.
Voilà le reportage du jour consacré à cette étude de Twins UK. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Bruno Reversade, justement cette étude sur 25 ans qui prend vraiment en compte l'évolution des couples de co-jumeaux sur le long terme et donc a priori leur différenciation puisque on part du principe que plus ils avancent en âge, plus ils se distinguent justement du fait de l'influence des facteurs épigénétiques.
Oui, je pense qu'en fait il y a beaucoup de cohortes de jumeaux en Europe et il n'y a pas que au UK, Netherlands aussi, il y a une twin registry. C'est très très puissant. Ça nous permet vraiment de distinguer l'inné de l'acquis et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressources dans ces cohortes.
Fabrice Bach.
Oui, je pense que c'est très intéressant. On trouve des recherches, énormément de recherches sur le plan génétique. Autant sur le plan psychologique, on en a beaucoup moins, malheureusement. Ouais. Malheureusement, la place reste au niveau génétique, mais c'est vrai que les découvertes qui sont faites sont absolument extraordinaires pour l'ensemble de la population.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que les jumeaux nous apprennent exactement, précisément sur l'importance de l'épigénétique, puisque il y a évidemment tous les facteurs environnementaux, mais aujourd'hui, quand on entend ce reportage, on voit que ça nous a permis de mieux comprendre les mécanismes autour de certaines affections comme la fibromyalgie. Ça permet de relativiser un certain nombre de sources qu'on imaginait génétiques de plusieurs maladies qui viennent en fait de circonstances extérieures. Expliquez-nous ça, Bruno Reversade.
Je vais essayer. Donc, je pense qu'il faut partir au principe que des jumeaux monozygotes sont des clones, donc ils ont exactement 100% à peu près 100% de leur génome qui sont communs, puisqu'ils partent du même zygote. Quant aux jumeaux dizygotiques, ont à peu près 50% de leur génome. Et donc, quand on compare l'héritabilité,
oui,
d'un trait,
l'hérédité,
d'un trait ou d'un d'une maladie, on peut distinguer si elle est toujours présente chez les paires de jumeaux monozygotiques. Donc, on peut dire qu'elle est, elle est héréditaire. Donc, ça nous permet de distinguer l'impact et l'implication du. Pardon, je ne trouve pas les mots.
Non, c'est pas grave.
Voilà, le rapport entre l'épigénétique et la génétique. Qu'est-ce qui est vraiment héréditaire et ce qui va être ressenti par le vécu et par ce qui arrive après la naissance.
Par les conditions environnementales. Alors, vous le disiez à l'instant, hein, on dit que deux jumeaux monozygotes ont strictement le même code ADN. C'est pas tout à fait vrai.
Non, puisque selon le stade à partir duquel les deux embryons se séparent, ils vont être dans un environnement différent et donc ils vont acquérir des mutations somatiques ou des mutations épigénétiques différentes. Donc ils ne sont pas 100% identiques.
Mais dès le départ, déjà à l'origine, il y a des différences de transfert mitochondrial qui normalement ne sont pas tout à fait les mêmes. Or on sait maintenant que l'ADN mitochondrial a une importance dans le développement du fœtus, de l'embryon et ensuite de l'enfant et de l'adulte.
Tout à fait. Oui, l'ADN génomique et l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial provient de l'œuf, et donc sa distribution peut varier entre les deux jumeaux.
On mesure bien justement aujourd'hui l'influence que peut avoir ou la différence d'influence que peut avoir cet ADN mitochondrial différent chez chaque co-jumeau ou pas encore très très bien.
C'est un peu loin de mon domaine de compétence, en fait. Je ne pourrais pas vous dire.
D'accord. L'autre chose sur ces différences d'ADN, parce que donc on parle de quasi-clones, il peut y avoir aussi des mutations ponctuelles lors du développement embryonnaire, des mutations différentes pour chacun des deux embryons.
Oui, exactement. Il peut y avoir des mutations qu'on appelle somatiques, donc qui ont lieu après le stade 1 cellule. Et donc, il y aura un des jumeaux qui va hériter d'une mutation et donc il va développer une maladie qui lui sera propre et qui ne sera pas partagée avec l'autre jumeau parce qu'elle aura lieu après la séparation des deux jumeaux.
Fabrice Bach, on constate, je le disais effectivement, des différences qui s'agrandissent au fur et à mesure que les couples de jumeaux ou de jumelles vieillissent. Est-ce qu'on constate également que les circonstances de vie vont vraiment varier de manière significative justement ces différences ou est-ce que finalement elles sont tout de même relativement contraintes?
En fait, ce qui se présente, même, c'est d'ailleurs assez troublant, on pense que lorsqu'on va avoir deux enfants, en plus des jumeaux, ils vont bénéficier de la même éducation. Or non, on peut jamais refaire exactement la même chose. Et on sait qu'effectivement au niveau du développement des jumeaux, les jumeaux vont passer par des étapes spécifiques de développement. Entre la naissance et deux ans, ils vont passer par une étape dite de fusion gémellaire, ce qui est tout à fait naturel. C'est une étape qui était extrêmement diabolisée, notamment dans les années 70, où on parlait de dégémellisation outrance, qui est une intervention abominable, parce qu'on ne peut pas dégémelliser, c'est nier l'existence même de l'entité réelle de ces enfants. C'est un lien spécifique qui va leur appartenir toute la vie et qu'il faut les aider, il faut pouvoir les aider et les accompagner dans le développement de ce lien. Donc cette première phase dite de fusion gémellaire, les parents le font spontanément, sans s'en rendre compte, pour une raison toute simple, c'est qu'il est plus simple de considérer les deux enfants comme étant à l'origine d'une même demande que chacun des enfants comme étant à l'origine d'une demande spécifique. Si l'ampleur, on le change, on va changer le deuxième, qui lui est peut-être pas forcément à l'origine d'une demande. Ce qui va impacter, donc, effectivement, un retard développemental assez léger. On va retrouver un retard développemental qui peut aller de 9 à 18 mois au niveau des enfants. Retard développemental sur le plan affectif, sur le plan psychomoteur et sur le plan du développement cognitif. Ensuite, aux alentours de 2 ans, les enfants vont commencer à envahir leur environnement et les parents vont les positionner dans une étape dite de complémentarité. C'est-à-dire qu'ils vont leur attribuer des caractéristiques spécifiques complémentaires l'une de l'autre. D'ailleurs, c'est assez amusant, ils ne s'en rendent pas compte. Combien de fois j'entends dans mon cabinet, ben, vous savez, lui il est plus colérique et lui il est plus doux. Lui il aime le sucré, d'autres le salé. C'est aussi caricatural que cela. Mais en agissant de la sorte, les parents commencent à les dissocier l'un de l'autre. Aux alentours de 6 ans, ils vont rencontrer une première phase d'autonomie, puisque de par la scolarité à laquelle ils sont confrontés, l'école va commencer, effectivement, à les considérer aussi, l'environnement social, comme étant deux individus distincts. Ils vont voir une seconde phase d'autonomie à l'adolescence, aux alentours de 12 ans. Et la façon dont les parents vont interagir avec leurs enfants au cours de ces différentes phases de développement vont impacter le développement des enfants. On parlait de ce retard à l'instant du développement, ce retard développemental qui est présent chez les petits, il est naturellement comblé aux alentours de 6 ans, sans qu'on fasse quoi que ce soit de spécifique. ne sont pas des retards qui vont perdurer dans le temps, fort heureusement. Lorsqu'ils perdurent, on peut être confronté à ce qu'on appelle des problématiques gemellaires. Il y a deux grandes problématiques. Des enfants qui sont enfermés ou qui ont été enfermés dans la fusion gemellaire. Alors, heureusement, c'est de plus en plus rare au jour d'aujourd'hui, de par le travail de la Fédération Jumeaux et Plus. Les acteurs de terrain font un travail gigantesque auprès des familles pour les accompagner, leur donner un soutien et des explications. Et deuxième type de problématique, des enfants qui se sont enfermés dans l'étape dite de complémentarité, qui va au-delà des 6 ans. Et là, effectivement, ça va impacter leur développement et le lien qui est le leur dans les années qui vont suivre. On sait que des enfants qui ont été pris dans la fusion gemellaire, qui va au-delà donc des 2 ans, fusion gemellaire qui fascine la télé, c'est toujours extraordinaire de voir des jumeaux qui vivent la même chose, de la même façon. Mmh. Derrière, on va retrouver des problématiques sur le plan de la construction de l'identité et de la personnalité. Mmh. Ça va très très loin. Il y a quelques années, il y avait 2 jumelles qu'on voyait fréquemment à la télé, d'un certain âge, jumelles monozygotes, et qui étaient actrices toutes les deux, et qui un jour évoquaient dans un reportage télé qu'elles fantasmaient mourir toutes les deux ensemble et être enterrées dans le même cercueil. C'est quand même assez particulier comme fonctionnement. Fort heureusement, aujourd'hui, c'est assez rare, comme je disais. Mais au niveau de la gemellité, un élément va aussi se poser, cette question de la différenciation et de la séparation. Ça, c'est vraiment le thème central. Chaque année, je suis confronté à pléthore de questions dans mon cabinet sur cette question de la séparation des enfants.
Et on va reparler dans quelques instants. Je voudrais tout de même poser une question à l'un et à l'autre, finalement, Fabrice Bach, Bruno Réversade. Quel est le delta de variabilité du phénotype des deux jumeaux? Est-ce que deux jumeaux peuvent vraiment, au cours de leur évolution, au cours de leur développement individuel en tant qu'adolescent puis en tant qu'adulte, arriver à des développements phénotypiques extrêmement différents? Ou est-ce que malgré tout, il reste une sorte de cadre du génome qui impose malgré tout, même malgré les différences épigénétiques, une sorte de cadre commun ou en tout cas de similitude.
Étant un interactionniste, un constructiviste convaincu, je pense qu'effectivement... Alors, on a toujours des études qui sont menées et qui mettent en avant le fait de jumeaux qui ont été séparés étant petits. On les retrouve à l'âge adulte, on compare, ils ont des vies pratiquement identiques. Oui, effectivement, on les trouve toujours. Mais si on prend la globalité des jumeaux, c'est quand même un pourcentage extrêmement infime. Il y a quelques années, on a eu 2 jumeaux qui ont obtenu le bac la même année, au 10e de points près, identiques en moyenne. Combien de jumeaux ont passé le bac cette année et combien ont fait ça?
Oui, non, mais ça, ensuite, c'est des hasards, oui, bien
tout
sûr.
À fait. C'est là qu'il faut être très vigilant.
C'est des hasards statistiques.
Totalement. Mmh. La gemellité fascine et on prend rapidement certains faits spécifiques comme participant à cette fascination gemellaire. Bon, je pense qu'effectivement, les enfants, et ça va être tout le travail de l'environnement familial, de les amener à développer leur propre identité, leurs propres compétences. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, chez les jumeaux dizygotes de sexe différent, globalement, c'est assez simple, garçon-fille. Quoique parfois on a des petites surprises. Après, c'est un peu plus complexe chez les jumeaux dizygotes de même sexe et vraiment plus complexe chez les jumeaux monozygotes, où là, il va véritablement falloir les positionner comme étant 2 individus à part entière. Et lorsque ça n'est pas fait, par contre, sur le plan psychologique, on peut avoir des troubles assez importants. Pour l'anecdote, un jour, j'ai eu 2 jumelles en consultation, une au départ et j'ai eu la deuxième ensuite, monozygotes. Et les parents les avaient laissées en totale fusion, l'une avec l'autre. Elles avaient réussi à se développer. Et on a eu pour casser cette fusion, qu'est-ce qui s'était passé? L'une des jumelles avait rencontré son petit copain et sa co-jumelle lui a piqué et s'est mariée avec. Un peu embêtant.
Un mot sur jusqu'à quel point peuvent varier les phénotypes de jumeaux identiques, Bruno Réversade? Est-ce qu'il y a vraiment une norme ou une limite à cette variabilité phénotypique?
D'un point de vue embryologique, ils sont vraiment très très proches. Et je trouve que quand on regarde des jumeaux identiques, les traits de visage, la taille, le poids, vraiment ça nous donne une impression du poids de la génétique dans la détermination de ce que l'on va devenir. Et à ce titre, je pense qu'en fait, ça nous rappelle à quel point on est conditionné par notre génétique.
Vous ne pensez pas du tout à l'inverse, que précisément l'épigénétique nous montre aujourd'hui que sur des parcours de vie très très différents, on arrive à trouver des jumeaux ou des jumelles monozygotes dont le phénotype s'est exprimé vraiment différemment
Sûrement, mais sur un terroir, sur une base génétique.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon mari tournait les calembours et les bonbons. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre ou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège, j'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer allegretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Oh, mais dis-moi le cas, ça y est, je suis en retard.
Delphine,
oui, tu vas chercher Boubou? Oh, tu veux pas y aller?
Bah, je reste l'après-midi.
Mais vous reconnaissez les Demoiselles de Rochefort, musique de Michel Legrand pour le film de Jacques Demy. Et d'ailleurs, on me signale que c'est aujourd'hui les 50 ans de la mort de Françoise d'Orléac. Il est 16h43, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des jumeaux vus par le biais de la génétique, de l'épigénétique, mais aussi de la psychologie cognitiviste. Nous en parlons avec Fabrice Bach, qui est psychologue cognitiviste précisément, spécialiste du développement des jumeaux, et Bruno Reversat, qui est directeur de recherche en génétique humaine à l'Institut de biologie médicale de Singapour. Alors on a parlé, on a vu, on a évoqué justement les différences de phénotypes et l'expression des phénotypes différents en fonction de l'épigénétique au long du développement de la vie des jumeaux monozygotes. Mais on va s'intéresser maintenant à tout un pan de recherche en psychopathologie clinique qui s'intéresse au développement cognitif donc des jumeaux et de jumelles. Il paraît que le jeu, Fabrice Bach, apparaît beaucoup plus tard chez les jumeaux, c'est vrai, le jeu JE.
Oui, tout à fait, beaucoup plus tard que par rapport à l'enfant unique, puisque ce qui est fascinant, alors beaucoup de choses ont été dites sur les jumeaux, et on a commencé à les démystifier, fort heureusement. Par exemple, le jeu JE apparaît beaucoup plus tardivement, puisqu'il y a un terme qui va apparaître, que les enfants vont créer pour caractériser leur lien. Souvent, ce qu'on va retrouver, c'est les deux premières syllabes des prénoms qui vont être accolées. Pour eux, jumeaux, ça ne veut rien dire du tout. Comme je dis souvent, les derniers à savoir qu'ils sont jumeaux sont les jumeaux eux-mêmes. On parle aussi beaucoup de ce fameux langage cryptophasique, ce langage particulier qu'auraient élaboré les jumeaux entre eux. Donc à l'origine, ce sont deux chercheurs russes, Luria et Yudovitch, qui avaient identifié dans un contrée d'Ukraine reculée, deux jumeaux qui avaient été laissés en totale autarcie et qui avaient développé tout un langage, avec une grammaire, un vocabulaire spécifique. Zazo l'avait repris dans les années 70 en disant « voilà, regardez, les jumeaux ont un langage spécifique ». Non, aujourd'hui c'est faux, c'est plutôt l'indicateur d'une problématique gemellaire spécifique si ces jumeaux s'enferment dans ce processus-là. Mmh.
Mais ça, cette cryptophasie, ça apparaît. Alors, est-ce que c'est attesté chez tous les couples de jumeaux monozygotes et ça apparaît de quel âge à quel âge? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure avec...
Encore une fois, là, tout va dépendre de la façon dont les parents vont interagir avec leurs enfants. La particularité du développement des jumeaux, c'est qu'ils ont un co-jumeau, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle à côté d'eux qui n'est pas forcément le bon et qu'ils vont suivre. Mm-hmm. Donc, les parents vont devoir travailler non pas deux fois plus, mais travailler avec le jumeau 1 et ensuite avec le jumeau 2.
Quand vous dites un modèle qui n'est pas forcément le bon, c'est-à-dire notamment pour l'apprentissage du langage, parce que quand un enfant essaie de reproduire un son, forcément il le reproduit à sa façon, et quand l'autre jumeau entend ce son, donc il part sur une base qui est une base inexacte, et
ce qui expliquerait,
les retards d'apprentissage.
Complètement, puisque ce modèle qui est présent à côté d'eux va impacter à un moment donné un décalage par rapport à l'enfant unique qui est extrêmement sollicité. Les mères doivent partager leur temps de sollicitation entre les deux enfants, ce qui amène souvent beaucoup de culpabilité. Alors, il n'y a aucune raison d'en avoir, parce qu'on ne peut pas apporter un temps de quantité, on peut l'apporter en termes de qualité. Mmh. Et ça, c'est ce que je constate très fréquemment au niveau des parents. Mmh. Ensuite, effectivement, lorsqu'ils vont grandir, ils vont avoir un développement par à-coup. Dans cette période dite de complémentarité, on a pu constater, par exemple, que les enfants, au niveau des enfants jumeaux, les filles étaient fréquemment en avance par rapport à leurs frères. Mmh. Vous me direz ensuite, ça peut continuer
chez
aussi.
Vous voulez dire
les filles étaient fréquemment en avance. Mmh. Et on a pu établir que c'était effectivement lié à la mère qui interagissait beaucoup plus avec la fille qu'avec le garçon. Mmh. Donc, on peut retrouver ça aussi à l'adolescence. Ce qui est extraordinaire au niveau de la jumélité, comme je le disais à l'instant, sont des enfants qui ont des besoins spécifiques dans leur développement propres à leurs caractéristiques. Cette caractéristique est d'être né au même moment. On leur attribue tout un ensemble de choses un petit peu ésotériques, transmission de pensée et autres. Dans les années 50, c'était la CIA qui avait beaucoup travaillé sur cette question. Leur fantasme était d'envoyer un des jumeaux chez les Russes et de garder l'autre chez eux, puis ils allaient se transférer des trucs. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. De façon plus terre à terre, ils ont un lien qui est spécifique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on va passer toute notre vie à chercher quelqu'un pour traverser ce truc qu'est la vie, ce truc qui est quand même très embêtant. Eux, ils naissent au monde avec quelqu'un pour traverser la vie. C'est extraordinaire. Un partenaire de vie qui est là en permanence, qui est là pour les écouter, les comprendre, ressentir des choses. Très fréquemment, ce que l'on voit à l'âge adulte, lorsque le lien gemellaire s'est bien construit et que les enfants ont pu ensuite le faire vivre l'un vis-à-vis de l'autre, lorsqu'un événement important va arriver, le premier à être occurrent, c'est le co-jumeau. Ensuite, les parents. Ça, c'est très fréquent. Je vois fréquemment une jumelle qui peut attendre un enfant, elle va prévenir sa co-jumelle ou son co-jumeau avant d'appeler ses parents. Ce lien est le leur. Il est véritablement extrêmement intense. Et lorsqu'il crée des couples, ensuite adulte, il est très vigilant que le conjoint, qui lui n'est pas forcément jumeau, loin de là, ne s'immisce pas dans cette relation-là. Sans quoi il arrive toujours la même chose. Une grenade dégoupillée, c'est le conjoint qui va sauter. Mmh. On ne peut pas s'immiscer dans cette relation.
Pour revenir sur les phases de développement cognitif à l'enfance, on sait que effectivement, les parents sont souvent démunis face à la phase que vous appelez la phase de fusion gemellaire. Est-ce que ça veut dire que dès le départ, il faut chercher à distinguer, à différencier au maximum, à forcer cette différenciation? On parle des toutes premières étapes entre 0 et 2 ans. Ouais.
Alors, pendant la grossesse, ce qui est extraordinaire, c'est que les parents mettent en œuvre pléthore de moyens. Ils hypothétisent sur ce qu'ils vont faire lorsque les enfants seront là. Alors, des fois, c'est super élaboré, je vous assure. Mmh. Il y a des tableaux, etc. Merci Excel, on fait des choses super. Mmh. Lorsque les enfants sont là, ça ne tient pas plus de 48 heures. Mmh. Parce qu'effectivement, on est pris dans l'immédiateté du fait de s'occuper de ses enfants. Donc, les différencier, je dirais, bien entendu. Maintenant, lorsqu'ils sont petits, le fait de les habiller de la même façon, ce n'est pas forcément grave. Si c'est ponctuellement. Effectivement, on va les appeler par leur prénom, les appeler les jumeaux en permanence, c'est un petit peu irritant. On a remarqué que les jumeaux, d'ailleurs, gardaient un peu plus longtemps leur petit bracelet de naissance qu'un enfant unique. Fait de les différencier. Je vous explique pas quand le papa doit laver les enfants et qu'il retire les bracelets. Mmh, mmh. La maman n'est pas très contente à ce moment-là.
Oui, ou l'inverse.
Ou l'inverse. Mais les mamans sont plus vigilantes, j'ai remarqué ça, ce qui se passe. Toujours est-il que, comme je disais à l'instant, dans le développement des enfants, cette phase de fusion, les parents l'ont diabolisée, sont extrêmement inquiets du fait d'interagir de la même façon, etc. Une sorte de souci égalitariste qui est là. Dans la petite enfance, il est tout à fait normal de les considérer comme étant identiques. Ça n'est pas gênant du tout. Je crois qu'on ne peut pas se représenter la somme de travail et d'efforts que doivent fournir les parents pour s'occuper des bébés.
Les parents de jumeaux qui nous écoutent le savent pertinemment. Et si vous avez des amis qui ont des jumeaux autour de vous, vous vous rendez compte qu'en général, vous ne les voyez plus pendant un certain nombre d'années.
Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on vous déplacez, c'est brusquement avec une petite fourgonnette. Vous avez les couches, les biberons, etc.
Donc vous avez dit, on a la phase de fusion gémellaire entre 0 et 2 ans, la phase de complémentarité de 2 à 6 ans, puis différentes phases d'autonomie. On redoute, ou les parents redoutent souvent aussi la phase d'adolescence qu'on dit plus difficile parce que du coup la phase d'adolescence passe par une double séparation. Il y a la séparation d'avec les parents et la séparation
du co-jumeau. On va redéfinir son lien avec son frère ou sa sœur. Par contre, ce qui est extraordinaire à l'adolescence, notamment encore une fois dans les cas de jumeaux dizygotes de sexe différent, garçon-fille, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un espion dans le camp adverse. Alors ça, c'est génial. Dis, Caroline, ta copine, elle me trouve sympa ou pas ? Et ça, c'est des échanges qui sont extrêmement riches. Maintenant, dans le cas des jumeaux monozygotes, effectivement, ça va être l'émergence de caractéristiques qui vont leur être propres, mais même physiques. Il y a des choses qui vont commencer à émerger en termes d'identité. On va vouloir se démarquer, des jumelles qui vont commencer à s'habiller d'une façon totalement différente, se coiffer différemment pour trouver leur propre identité. Mais en même temps, ce qui est très difficile, c'est lorsqu'elles doivent se dissocier, elles doivent chercher à préserver ce lien qui est le leur, qui restera toute la vie. Et là, c'est le travail des parents qui doivent devenir de bons négociateurs à ce moment-là.
On s'inquiète souvent ou on parle beaucoup du rapport dominant-dominé entre les jumeaux qui apparaîtrait très tôt, qui pourrait se poursuivre avec toujours la peur d'une sadisation ou d'une forme de comportement torsionnaire de l'un sur l'autre. Est-ce que c'est des choses qui apparaissent ? Est-ce que c'est systématique à tous les couples de jumeaux monozygotes ?
Oui, on va le retrouver d'une façon très régulière. Alors, chez les jumeaux monozygotes, un peu moins. Chez les jumeaux dizygotes, c'est très fréquent. Maintenant, ça fluctue en permanence. C'est ça qui est très sain. Dans cette période de complémentarité, l'un va être plus dominant dans une activité et l'autre dans une autre. Et c'est ce qui est très sain, ce roulement, si je puis m'exprimer ainsi, qui est présent. Ce qui est plus problématique, c'est lorsque ce rapport se fige. Où là, on va avoir un rapport dominant-dominé qui va se figer et l'un peut totalement vouloir annihiler, voire écraser la personnalité de l'autre. Nous, lorsqu'on l'identifie en consultation, puisque maintenant on a des protocoles de prise en charge spécifiques pour les jumeaux.
C'est-à-dire ?
C'est par exemple lorsqu'on va faire des bilans sur le plan cognitif pour identifier le mode de fonctionnement de la pensée de chacun des enfants, ce qui va nous permettre d'identifier l'intensité du lien gémellaire qui est présent entre eux. De là, si on rencontre par exemple des jumeaux qui sont en pleine complémentarité, qui s'est figée, paradoxalement, donc on va avoir un des enfants qui fonctionne bien et l'autre qui a présenté d'importantes difficultés, souvent celui qui est amené en consultation de part et d'autre. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les suivis ne fonctionnent pas, puisque le co-jumeau annihile tous les suivis à la maison. Donc paradoxalement, le premier qu'on va prendre en consultation, c'est celui qui va bien. On va lui expliquer ce qu'on va faire avec son frère ou sa sœur. Et comment on va aider son frère et sa sœur à se développer, comment lui va pouvoir y participer aussi de ce développement.
Vous parlez de, en général, ce sont des phases qui surviennent vers quel âge ?
Alors là, on est au niveau de phases qui surviennent aux alentours de 4-5 ans. Par exemple, on sait qu'aux alentours de 4-5 ans aussi, les jumeaux vont traverser une phase de violence exacerbée. Quand ils se frappent réellement. Quand la tête part vers le mur, elle part réellement sur le mur. Ce qui est troublant, c'est qu'aucun ne finit jamais à l'hôpital. Ça, c'est assez surprenant. Mais ils ont besoin aussi, par la force physique, de se différencier. Et là, c'est très marqué chez les jumeaux monozygotes.
On parle aussi souvent d'une question qui est alors très taboue et qui inquiète énormément les parents, c'est la sexualité gémellaire.
Oui. Alors, on essaye de mener des études depuis un certain nombre d'années sur cette question. Y a effectivement énormément de fantasmes qui sont générés autour de cela. Les premiers avaient été construits par Zazo, au niveau de l'homosexualité, etc. Ou dans le cas de jumeaux dizygotes de sexe différent, qu'est-ce qui pouvait se passer entre eux. Très, très compliqué de mener une étude dans ce registre. Ce que l'on sait aujourd'hui au niveau adulte, c'est qu'ils ont des sexualités qui sont totalement cohérentes, stables, etc. Parfois, on a des choses surprenantes qui peuvent se présenter. Et lorsqu'effectivement on identifie ces choses surprenantes, quand on remonte dans l'histoire de la gémellité, on va trouver des choses qui peuvent être dysfonctionnantes. Des jumeaux qui ont été laissés en totale fusion gémellaire, qui à un moment donné doivent se séparer, et l'un peut à un moment donné développer une homosexualité. Alors attention, je ne fais absolument aucun lien de généralisation par rapport à cela. Ce sont vraiment des cas ponctuels qui sont présents. Et ce qu'on avait retrouvé dans ce contexte-là, c'est un lien de fusion extrêmement marqué. Et en fait, l'autre sexe faisait peur. En fait, ce que je connaissais le mieux, c'était mon sexe, mon identité. Et mon co-jumeau étant parti, comment je vais le remplacer ?
Alors, on parle évidemment d'un certain nombre de troubles du développement cognitif et comportemental. Précisons bien sûr que dans la plupart des cas, les choses se passent
fort heureusement, mais
remarquablement
oui,
bien,
bien.
et de manière tout à fait harmonieuse. Quelques questions encore sur la rupture du lien gémellaire quand ce lien se rompt pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on constate des troubles du développement, des troubles de la perception, des troubles...
On a effectivement deux cas qui peuvent se présenter lorsque ce lien s'abîme, si je puis m'exprimer ainsi. C'est lorsque effectivement on a des enfants, une émission télé s'était faite sur justement des jumeaux qui étaient en totale opposition, en conflit depuis des années, c'est-à-dire qu'ils ne se voyaient plus. D'ailleurs très triste parce qu'eux-mêmes évoquent l'un et l'autre une grande souffrance. Mais derrière ce que l'on retrouve, c'est souvent malheureusement des parents qui n'ont pas su accompagner le développement de ces enfants, qui les ont positionnés en opposition. Et donc en conflit permanent. La deuxième raison, c'est effectivement lorsqu'un des jumeaux peut décéder. Malheureusement, ça peut se produire aussi. Je pense que c'est une situation absolument abominable pour le jumeau qui reste à vivre, parce qu'il perd son compagnon de vie. Et l'accompagnement à lui apporter sur le plan psychologique, sur le plan affectif, est vraiment très 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 important à ce moment-là. Il ne va pas vivre son deuil comme quelqu'un d'autre. Et malheureusement, en France, on a peu de spécialistes des jumeaux qui peuvent accompagner les jumeaux dans ce sens-là. Mais c'est vraiment un accompagnement bien spécifique parce qu'il doit... Il y a une part de lui qui est partie. C'est pas simplement la perte d'un frère ou d'une sœur.
Bon, pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, bon, finalement, le développement aujourd'hui, on a. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que toutes les recherches qui se sont effectuées en psychopathologie clinique autour des fratries ou des fratries monozygotes ont permis d'en définir aujourd'hui une acception cohérente qui permet un accompagnement.
Oui, fort heureusement, oui, tout à fait. Aujourd'hui. Les travaux ont suffisamment avancé pour avoir pu identifier ce qu'était le développement gémellaire, les étapes par lesquelles passaient les enfants, ce qu'on évoquait précédemment, d'où la mise en place de pratiques de prise en charge spécifiques pour ces enfants, dans des cas de fusion, dans des cas de complémentarité. Dans un cas de fusion, on ne va pas séparer les enfants, surtout pas. On va les faire repasser pour une étape de complémentarité pour ensuite atteindre l'autonomie. Donc aujourd'hui, on a des idées extrêmement précises et le retour que l'on a au fil des années maintenant, puisque ça fait maintenant près de 20 ans, au niveau des accompagnements, c'est très positif.
Un mot, Bruno Reversal, vous continuez à travailler, vous, sur la gémellité, sur les embryons monozygotes. Quel est le sens de vos recherches actuelles?
En fait, on essaie de déterminer quelle est la voie génétique qui est sollicitée pour former des jumeaux identiques. Pour plusieurs raisons, parce que ça va nous permettre de comprendre le développement précoce de l'embryon humain et peut-être à terme de pouvoir en fait déclencher la gémellité, pas nécessairement chez l'espèce humaine, mais chez d'autres espèces, parce que c'est une forme en fait de d'embryogenèse très particulière.
Déclencher la gémellité pour quelle fin?
À quelle fin? Pour produire des clones. Donc ça peut avoir pas mal d'intérêt dans nos différentes espèces. Et ça pose aussi des questions très intéressantes d'ordre éthique aussi chez l'humain. Qu'est-ce qui nous définit notre identité? Est-ce que c'est notre génome? Est-ce que c'est notre vécu? Et donc ça, ce sont des questions que j'aimerais vraiment aborder plus tard.
Merci beaucoup à vous deux, Bruno Reversad, Fabrice Bach. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver, télécharger, réécouter cette émission sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi que toutes les autres émissions et les chroniques de l'année. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozette, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Elisabeth Gornescoteau au droit d'auteur. Et demain, nous partirons en quête du tonnerre de Zeus. Nous parlerons des orages, des éclairs, de ce que la science et la physique nous en apprennent. Et puis, en guise d'apéritif, notez dans vos tablettes que vendredi, pour la dernière émission avant la coupure estivale, nous aurons l'immense plaisir de nous entretenir avec Robert Charles Wilson, auteur de Spin, prix Hugo 2006, qui sera avec nous en duplex depuis Toronto pour son nouveau roman La Cité du Futur, chez De Noël. Dans quelques instants, dernier LSD de la saison, la série documentaire consacrée cette semaine à l'art en 1917. C'est une série de Perrine Cavron et de Ghislaine David. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.